Radio Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Goma, au Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Le chef de l'État s'est adressé à la nation ce samedi devant les députés et sénateurs réunis en congrès. C'était dans un discours à la nation entamé sur une note désapprouvant et dénonçant l'engagement du Rwanda à agresser la RDC à travers le M23. Au Nord Kivu, le fonctionnaire délégué du gouverneur à Bambo, en chefferie de Buito, dénonce une tentative de M23 d'influencer les témoignages de la population sous les massacres de Kishishe. Isaac Kibira appelle d'ores et déjà les institutions régionales et internationales à ne pas considérer les résultats de cette enquête unilatérale du M23 sur ces massacres. L'invité de ce journal est le vice-gouverneur de province du Kasaï central. Martin Makita alerte sur les séquelles de la crise Kamouina-Nsapu encore vive dans cette province. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État s'est adressé à la nation ce samedi devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Un discours sur l'état de la nation entamé par une note de désapprovation et dénonciation de l'engagement du Rwanda à agresser la RDC à travers le mouvement terroriste M23. À cet effet, Félix Tshisekedi réaffirme son soutien aux FARDC dans leur détermination de reconquérir les zones occupées. Des détails avec Billy Van Lutumba.
Dans la perspective de pacification et de sécurisation de la partie est de la RDC, Félix Tshisekedi a martelé sur l'injonction du Parlement à ne pas déverser ni mixer les éléments du M23 dans l'armée et la police nationale congolaise. Il a plutôt salué la mobilisation de près de 10 000 nouvelles recrues pour renforcer l'armée aux fins de défendre l'intégrité du territoire. Parlant des échéances électorales, le chef de l'État a souligné que le respect des cycles électoraux demeure une exigence. D'où son appel à la mobilisation pour que les élections soit organisé dans le délai constitutionnel. Il invite ainsi tous les Congolais, particulièrement ceux des 5 pays étrangers désignés, à la mobilisation pour s'enrôler massivement afin d'exprimer leurs droits et devoirs civiques. Le président de la République, comme lors de son précédent discours sur l'état de la nation, a insisté et interpellé le Conseil supérieur de la magistrature quant à la qualité de certaines décisions de justice rendues par quelques magistrats. Ainsi plaide-t-il pour un renforcement de la sanction contre les magistrats véreux. Après avoir égrené quelques réalisations sur le plan diplomatique, le président congolais s'est félicité de la résilience qu'affiche l'économie congolaise face aux pesanteurs extérieurs, particulièrement les conséquences de la crise russo-ukrainienne. Cette adresse du chef de l'État s'est clôturée par une exhortation au patriotisme et nationalisme.
Peu avant de prononcer son discours sur l'état de la nation devant les parlementaires réunis en congrès, le président de la République a reçu le serment des 3 premiers avocats généraux et 6 avocats généraux près de la Cour constitutionnelle. C'était donc ce samedi dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Encore une fois, Billy Van Lutumba.
Parmi les assermentés magistrats du parquet général près de la Cour constitutionnelle, 4 prêtent serment pour un second mandat. Il s'agit du premier avocat général Touliba Kilusolo, les avocats généraux Mbaka Matamdombi, Bonane Mouawa et Madame Masiala Kaza. Les nouveaux entrants à ce parquet près de la Cour constitutionnelle sont les premiers avocats généraux Likoko Bangala et Pongo Bushapong. Il y a également les avocats généraux Kasonga Mpau, Kongolo Ilunga et Iyolizo Bogongo. Signalons que tous ces magistrats ont été nommés par ordonnance présidentielle depuis le 30 juillet 2022.
Et par ailleurs, la magistrature mine la magistrature dans la ville d'Elikasi. Cette situation a été décriée par les justiciables devant les procureurs généraux près de la Cour de cassation. C'était mercredi dernier lors d'une journée porte ouverte organisée par ce dernier au palais de justice d'Elikasi dans le Haut-Katanga. Les justiciables ont été appuyés par les avocats d'Elikasi qui ont aussi déploré la corruption, le trafic d'influence et autres antivaleurs qui gangrènent l'appareil judiciaire dans leur ville. Firmin Vundé, procureur général près de la Cour de cassation, a promis d'apporter des solutions aux différentes préoccupations soulevées par l'assistance. Des détails avec Jean Gandou.
Les justiciables de l'Ikassi ont profité de cette occasion pour tirer à boulet rouge sur la magistrature. Ils ont dénoncé notamment la corruption dans le chef de certains magistrats, la lenteur dans le traitement des dossiers, les arrestations arbitraires et autres. Les avocats de l'Ikassi ne sont pas restés bouche cousue. Par l'entremise de leurs doyens, ils ont porté à la connaissance du procureur général près de la Cour de cassation d'autres griefs qui font ternir l'image de la magistrature dans cette ville. C'est notamment le fait pour certains magistrats de jouer le rôle dévolu aux avocats auprès de certains certains miniers d'origine étrangère et à qui ils accordent le traitement de faveur. D'autres s'enlisent dans la corruption. Le doyen des avocats a aussi dénoncé les interférences des hauts magistrats dans certains dossiers, ce qui fait qu'au bout du compte, le droit n'est pas bien dit. Le cadre des concertations de la société civile de l'ICASI se dit satisfait de cette initiative, comme l'indique Paul Kissimba, son coordonnateur.
C'est une activité qui a été saluée par la société civile et l'ensemble de la population dans la mesure où les procureurs généraux près la Cour de cassation qui étaient très attentifs à tous les problèmes a promis d'apporter des solutions dans son domaine lié à la magistrature et il a donné de l'orientation pour d'autres matières qui ne cadrent pas avec ses prérogatives.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, le fonctionnaire délégué du gouverneur à Bambo, chef du groupement du même nom en chefferie de Bouito, dénonce une tentative du M23 d'influencer les témoignages de la population sur le massacre de Kishishe. D'après ses responsables administratifs locaux, une délégation du M23 est arrivée hier vendredi à Kishishe en compagnie d'un journaliste rwandais et d'une personne présentée comme responsable d'une ONG des droits de l'homme sous une escorte des rebelles. Ces derniers ont réuni quelques habitants restés à Kishishe et ont commencé à les interroger sur ce qui s'est passé lors du massacre le 30 novembre dernier. Isaac Kibira, fonctionnaire délégué du gouverneur à Bambo, pense qu'en présence des rebelles, la population ne peut pas s'exprimer librement de peur de subir des représailles, car cette localité est toujours sous occupation. Il appelle d'ores et déjà les institutions régionales et internationales à ne pas considérer les résultats de cette enquête unilatérale du M23 sur le massacre de Kishishe. Isaac Kibira, joint par Radio Kapi.
Nous contestons fermement les enquêtes menées par le M23 hier sous la bénédiction des faux journalistes et défenseurs des droits de l'homme qui s'est faite hier dans le village meurtri de Kishishe. Nous disons non à cette enquête et nous demandons à la communauté internationale, à East African Community, à l'ensemble de toutes les organisations régionales de ne pas prendre cette enquête en compte parce que vous ne pouvez pas être tueur. Être aussi enquêteur, nous voulons une enquête impartiale, sans aucune intimidation ou influence de trafic pour qu'on nous donne la vraie version des massacres qui s'est fait au niveau de Kishishe et dans le groupement de Bambou et Tongo. Nous voulons que le M23 quitte la zone, qu'il laisse la zone à ceux qui l'ont gérée depuis longtemps. Et à partir de cela, les enquêteurs vont contacter les familles des victimes sans aucune inquiétude et cela nous donnera de bons résultats qui ne seront pas tendancieux.
Rappelons que dans un mémorandum du 2 décembre dernier, sept chefs de groupement et fonctionnaires délégués de Bouito avaient dénoncé les massacres commis par les M23 entre le 15 octobre et le 30 novembre 2022 dans différentes localités occupées en chefferie de Bouito dans les territoires de Rutshuru où nous sommes au Nord Kivu. Nous allons y rester pour signaler cette accalmie qui est observée ce week-end sur toutes les lignes de front, notamment en chefferie de Bouito, Binza et Kibumba, sous l'axe sud du territoire de Rutshuru. Bien qu'il n'y ait pas de combat signalé sur tous ces axes, la population de part et d'autre des zones occupées exprime des inquiétudes quant à un avenir incertain. Les populations signalent que le M23 renforce davantage ses positions, éloignant les habitants. Plusieurs sources locales déplorent également le non-respect par le M23 de la feuille de route de Luanda du 23 novembre 2022 qui leur demande de déposer les armes et de regagner leurs positions initiales. En Ituri, pendant ce temps, une délégation de la cellule opérationnelle du groupe de contact du mécanisme national de suivi des accords d'Addis Abeba a échangé hier vendredi à Bounia avec les communautés victimes des atrocités des groupes armés étrangers. Cette délégation, qui est composée d'une dizaine d'experts de 5 pays de l'Est, dont la RDC, est arrivée hier matin à Bounia. L'objectif de la mission est de faire le suivi de cet accord pour le rapatriement volontaire de toutes les forces étrangères qui commettent des violences en RDC, dont les rebelles des ADF. Des détails avec Isaac Remoyopi.
Cette équipe est composée de 15 personnes à raison des 2 délégués de l'Ouganda, de Tanzanie, de Burundi, du Rwanda et 3 Congolais. Le bureau du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba est représenté par un membre ainsi que 3 experts du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général pour les pays de Grand Lac. Au cours de ces assises, les leaders des communautés victimes ont salué cette approche de rapatriement volontaire de ces forces. Selon eux, cette démarche vient appuyer le processus de Nairobi qui concerne les groupes armés locaux pour la recherche d'une paix durable à l'est de la RDC. Cependant, ils ont posé certains préalables pour la réussite de cette mission. Rigen Kambale de la communauté Yira.
Les groupes soient à mesure d'identifier les groupes étrangers, leurs leaders, les gens qui les financent et les pays étrangers qui sont en train d'alimenter ces groupes en matériel comme en moyens financiers pour qu'ils continuent à tuer les gens.
Pour un notable de la communauté Bira, la démarche de cette CELI doit être combinée avec l'option militaire des forces régionales de l'EAC et des forces conjointes FRDC armées ougandaises. Cela en vue de traquer ces groupes armés étrangers pour les contraindre à se rendre pour les rapatriements volontaires. Charles Kakani.
Et s'ils vont travailler vraiment en harmonie avec la force régionale qui veut pour frapper et ils sont là pour démobiliser et rapatrier.
Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
Et dans la province de la Tchopo, l'agence belge de développement Enabel s'est dit satisfaite des résultats obtenus par les chercheurs de l'université de Kisangani ainsi que de l'université catholique de Louvain et de Gand en Belgique. C'est à l'issue de l'enquête qu'ils ont réalisée de mars 2018 à ce jour. Cette enquête dénommée Recherche-Action avait pour objectif d'intégrer les aspects socioculturels dans les protocoles de prise en charge des victimes de violences sexuelles. C'est ce qui ressort du séminaire de vulgarisation des résultats de cette enquête organisée hier dans la salle des banquets de la Fourchette Boyomaise. Un reportage de Jacques Moukonkoli.
Le protocole utilisé jusque-là dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles est le reflet des normes internationales, ce qui est un aspect positif. Cependant, le chef de projet lutte contre les violences sexuelles d'Enabel, Edouard Conan, souligne que cet ancien protocole n'intégrait pas les aspects socioculturels.
Quand une fille subit une violence sexuelle, ce n'est pas elle qui est considérée comme victime, c'est toute la famille qui se sent victime. Donc si votre approche de prise en charge n'intègre pas cette dimension de la définition, vous allez passer à côté du résultat.
Les chercheurs ayant réalisé cette enquête action ont enregistré trois principaux résultats, dont deux sont révélés ici par le professeur Augustin Moutequier, l'un d'eux.
Les situations pour lesquelles les victimes de violences sexuelles viennent se présenter au centre, ça c'est un résultat. De deux, il y a un résultat en rapport avec les logiques culturelles, les logiques sociales, et tenant compte du contexte de la Tchop. Nous avons montré comment la virginité de la jeune fille est considérée comme étant une monnaie d'échange.
Cette enquête s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre les violences sexuelles, lequel relève de la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, les prestataires de soins de l'hôpital général de référence de Beni ont clôturé hier vendredi leur formation. Pendant deux jours, ils ont été formés sur l'attitude à adopter pour une prise en charge efficace des malades qui présentent un problème d'arrêt cardiaque et respiratoire. Une formation organisée par la MONUSCO est grandement saluée par les participants. Reportage Gulen Kassassia.
Plusieurs techniques ont été apprises lors de cette formation organisée par la MONUSCO, notamment la réanimation des malades qui présentent un arrêt cardiaque ou qui a un problème cardiaque, comment utiliser différents appareils selon qu'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte et autres. Une formation qui vient apporter en plus aux participants, comme en témoignent ici certains d'entre eux.
Malgré notre réanimation que nous faisons chaque fois des routines à la néonatologie, j'apprends de plus les massages cardiaques externes. Nous ne les faisions pas comme il le faut.
Nous avons acquis beaucoup. Surtout technique, parce qu'on avait la théorie, mais la technique, ce n'était pas tout à fait complète. Pour le moment, nous savons qu'à défibriller.
On connaissait quelques gestes, mais il y a eu des grandes corrections. Par exemple, la façon de tenir le masque facial avec le ballon d'ambi. Au niveau de la pratique, qu'on dage là des mouvements, nous, on les faisait pêle-mêle. On vient de nous préciser combien de mouvements faire pour réanimer un adulte et un enfant.
Cette deuxième et dernière journée était plus particulièrement consacré à la pratique et à une séance d'évaluation de chaque participant par le formateur. À l'unanimité, les participants, parmi lesquels les réanimateurs, néonatologues, urgentistes et infirmiers, ont recommandé que pareille formation soit régulièrement organisée pour leur perfectionnement. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
La chanteuse congolaise Elisabeth Chalamwana Mouidikai n'est plus. Âgée de 64 ans, Chalamwana est décédée ce samedi à Kinshasa aux petites heures du matin dans un hôpital de la place. La reine du Mutuashi, la Mamou nationale, comme on l'appelait affectueusement, partant du fait qu'elle haïssait plus haut les Mutuashi, le folklore Luba, était à la fois chanteuse, danseuse, productrice, actrice et patronne de l'orchestre la dynastie Mutuashi. Elle avait également une casquette politique. De 2000 à 2002, elle a siégé comme députée au sein de l'Assemblée constituante et législative du Parlement de transition, avant de devenir plus tard présidente de la Ligue des femmes du PPRD. Tchalamouana laisse derrière elle un héritage musical très riche, constitué de chansons de bonne facture comme Malou, Mutuashi, Chanza, Lekela, Mouadi et autres. Joint par Jean-Marc Matouaki, l'artiste musicien et chanteur Jean-Goubal Kalala pleure une grande dame de la musique congolaise, également une sœur et une belle sœur pour lui. On l'écoute.
La mort a encore une fois frappé dans les rangs des artistes congolais. On est éprouvé encore une fois, on regrette la grande dame Mama Tchala, qui pour moi est une sœur et une belle sœur en même temps, parce que je suis un ami à Mama Tchala, un ami avec qui on a vraiment grandi, et voilà. Donc Dieu a donné, Dieu a repris. On n'a qu'à dire adieu à la grande dame qui était Mama Tchala. C'est elle qui vraiment a osé à faire du Mutuashi, à encenser cette musique Luba, avec l'appui de Suzy, de tous les grands arrangeurs du Congo qui l'ont accompagné à cette œuvre grandiose de faire connaître le Mutuashi à travers le monde. Et voilà, elle a osé et puis elle a réussi dans cette voie-là. Personnellement, moi, c'est une sœur avec qui on était mais très bien, très bien. Donc, paix à son âme, simplement.
Actualité internationale.
L'Ouganda va de nouveau nationaliser son secteur de l'électricité. Le gouvernement l'a annoncé hier vendredi. Il souhaite se libérer de ses partenaires privés étrangers afin d'obtenir une électricité à moindre coût. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce la mise en place d'un fonds de soutien pour l'effort de guerre à l'issue d'une rencontre entre le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et les partenaires sociaux, notamment des syndicats et les patronats burkinabés. L'objectif de ce fonds est de lever environ 100 milliards de francs CFA pour notamment payer et équiper les volontaires pour la défense de la patrie.
L'invité.
L'invité de ce journal est le vice-gouverneur de la province du Kasaï central. Martin Makita alerte sur les séquelles de la crise Kamuina-Nsapu encore vive dans cette province. Suivez l'entretien qu'il a accordé à notre envoyé spécial à Kalemi, Honoré Missenga Kalala, lors de la deuxième réunion du comité de pilotage conjoint du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies.
Monsieur le vice-gouverneur du Kasaï central, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, comment est née la ministre Kamuina-Nsapu d'une manière globale?
Pour votre histoire, il faut retenir que la milice Kamuina Nsapu est née d'un conflit de pouvoir coutumier. Un chef, un grand chef est mort, Kamuina Nsapu. Son fils est venu pour récupérer le pouvoir. Mais il y a eu une résistance de la part du gouverneur qui était là à l'époque et soutenu par le pouvoir central. Au vu de cela, le chef s'est rebellé, il a commencé à s'organiser. Et lorsque le pouvoir central a senti qu'il était en train de s'organiser, on a envoyé les militaires qui l'ont tué. Lorsqu'on l'a tué, c'est que la population s'est rebellée. Et pour eux, ne pouvait pas exister devant eux, c'est le pouvoir en place. Tout le monde de l'État qu'on voyait, on l'appelait Mweneka Bindi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas l'avancement du pays. Il fallait les tuer, il fallait les décapiter. Incendier les bureaux de la police, tuer les policiers, un militaire qui se présente, on le tue. C'est ça l'historique.
Donc le point de départ, c'est l'assassinat du chef coutumier.
L'assassinat du chef coutumier et le refus de l'installer.
Tout ça, c'est le passé. Votre province est parmi les trois couvertes par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies, dont l'objectif est de mettre en œuvre des projets d'intérêt communautaire en vue de contribuer à la cohabitation pacifique entre des peuples qui étaient ou qui sont en conflit. Qu'est-ce qui est déjà fait dans votre province par rapport à ce programme des Nations Unies?
C'est comme je l'ai dit. Je n'ai pas mâché les mots. On ne mange pas derrière la cuillère. La province du Kasaï central est l'épicentre de conflits. La province du Kasaï central a connu beaucoup de morts. Ce qui est fait, c'est fait comme une goutte d'eau dans l'eau. Le fonds PIF est venu, bien sûr, pour sensibiliser la population. Mais dans le ciblage, compte tenu des moyens vraiment limités qu'ils avaient reçus, là où on avait ciblé, il y a la paix. Parce que maintenant, avec les sensibilisations, l'animation, nous pouvons circuler à travers la province. Mais il y a toujours les poches de tension. Il y a toujours des coins où les gens vivent encore à couteau tiré parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent.
Notamment la gestion du pouvoir coutumier. Vous avez dit que beaucoup de chefs légitimes qui avaient été dépossédés de leur pouvoir n'ont pas encore été réhabilités. Comment? Pourquoi?
Oui, vous avez suivi au mois de novembre ici. entre le 20 et le 21, il y a eu 648 maisons qui étaient incendiées à Ntenda. Pourquoi? Parce que le chef légitime qui vit à Kinshasa était rentré pour récupérer son pouvoir entre les mains de l'intérimaire. Celui-ci, il s'est créé des acolytes et les acolytes de l'autre camp, ils sont affrontés et il y a eu des dégâts matériels énormes. Et il y en a quoi comme ça dans les territoires de Limbelenge, à Kazumba, à Ndemba et à Luisa. Et partout là, le fond ne les a pas encore soutenus. C'est ce qu'il y a encore du travail à faire parce qu'il y a les chefs qui étaient légitimement installés, mais quand la milice est venue, on a décapité le chef. On a mis quelqu'un d'autre au pouvoir et jusque-là, le pouvoir ne s'est pas encore stabilisé. C'est pourquoi, au niveau de la province, nous avons créé deux commissions. La commission Justice, Vérité et Réconciliation, pour que nous puissions réconcilier les gens, que les vrais chefs, à travers une deuxième commission, récupèrent le pouvoir et nous avons cherché à réglementer l'obtention de ce pouvoir-là et comment on peut cohabiter pacifiquement dans les familles régnantes.
L'autre problème, monsieur le vice-gouverneur, c'est la circulation continue des armes. D'où viennent ces armes?
Non, les armes ne circulent pas. Mais néanmoins, nous avons noté que les armes sont cachées. Parce que chez nous, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre entre les militaires et les miliciens. Il faut que nous puissions organiser une sensibilisation pour que les gens qui continuent à détenir encore les armes, que nous puissions les récupérer. Non seulement les armes de fabrication locale, mais il y a eu aussi les armes délaissées par les militaires passés par là, qu'on doit récupérer. Il faut une politique pour que nous puissions récupérer. Il faut des fonds et des moyens pour que nous puissions récupérer ces armes-là, pour que la paix règne et une paix totale.
La crise Kamuina Nsapu a également contribué à la baisse de la production agricole, vous l'avez dit, alors comment?
Vous savez, là où il y a la guerre, quand il y a eu la guerre, les gens sont déplacés. Même quand ils sont rentrés, ils ont peur. Ils hésitent de se trouver seuls dans les champs. Et de temps en temps, nous assistons aux problèmes de violence. On viole les femmes, on kidnappe les autres. C'est pourquoi les gens ne cultivent pas comme avant. Et au vu de cette crise alimentaire, il y a PAM, il y a CERES, il y a d'autres organisations, les Nations Unies qui sont de distribuer les vivres. Mais surtout, les cash. Et les cash ne résout pas le problème. S'il faut un appui pour la province du Kinshasa central, il faut un appui sur le plan agricole. On donne les matériels aratoires, on donne un appui pour que les gens puissent bien travailler.
Monsieur le vice-gouverneur du Kinshasa central, merci.
Je vous remercie.
Et c'était l'invité de ce journal, le vice-gouverneur de la province du Kasaï central, Martin Makita, s'entretenait depuis Kalemie au Tanganyika avec Honoré Missenga Kalala. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.